Salut, c'est Guillaume, bienvenue dans Bouffon.
Ça va bien, Bouffon ?
T'as un truc,
Bouffon ?
À manger par terre.
Littéralement l'impression de bouffer un nuage.
Qu'est-ce qu'on va rechercher dans le plaisir ?
La bouffe.
Tu bouffes ! Tu bouffes !
Cette saison, dans Bouffon, on a un peu envie d'explorer les goûts. Alors c'est vrai que dit comme ça, vous allez dire que ça change pas beaucoup de la saison d'avant, mais laissez-moi un peu vous expliquer. Amer, épicé, salé, croquant, toutes ces sensations qui caractérisent le fait de manger un truc qu'on emploie à tout bout de champ sont autant de goûts autour desquels on avait envie de creuser. Et comme on en oppose toujours deux, on a voulu aussi les marier au sein d'une série d'épisodes en commençant aujourd'hui par raconter l'histoire de l'épicé côte à côte avec celle du fade. Deux ressentis qu'on imagine connaître très bien, et pourtant vous allez voir qu'on a énormément à apprendre. Et je dirais même sans vouloir spoiler qu'on vit souvent dans l'erreur, mais ça vous allez voir pendant l'épisode. En deuxième partie, on va parler du fade avec l'autrice culinaire Ryoko Sekiguchi. Japonaise, elle est venue nous parler du fade et nous faire changer d'avis sur ce qu'on croit trop souvent être une absence de goût.
Quand on dit c'est fade, ça se discute pas, c'est l'impression qui prime. Et du coup, on peut parler de ça pour la cuisine, entre guillemets, les des autres. Donc, quand on ne connaît pas, au lieu de dire, au lieu de, d'admettre notre ignorance, on dit, bon, cette cuisine japonaise, par exemple, que je ne connais pas, c'est fade.
Mais commençons par l'épicé. Et pour nous raconter la saveur vivante, le goût qui virevolte dans nos papilles, on a invité Devaki Sivadasan, créatrice de Mama Spice, une boutique qui prépare des mélanges d'épices qui font se rencontrer Inde et Provence et qui surtout abreuve les grands chefs et même les particuliers et qui va nous raconter son parcours incroyable et nous mettre un peu les pendules à l'heure au sujet de l'épicé.
Souvent, les gens, ils me disent, quand ils prennent mes petits pots d'épices, ils me disent « Ah, je ne mange pas du tout épicé. » Et je leur explique, c'est doux. Épicé ne veut pas forcément dire c'est piquant, même si j'utilise du piment là-dedans. C'est fort, la cuisine indienne, mais on sait aussi préparer des plats qui n'arrachent pas la gueule. Nous, en Inde, on est habitués. Donc, avec Mama Spice, j'ai créé des mélanges qui tirent à la fois du côté indien et à la fois du côté Provence, parce que c'est vraiment le mélange de deux cultures gastronomiques que je voulais faire, provençale et indienne. Et je les ai tous créés de sorte que, avec les épices, tout est une question de dosage. Donc, vous mettez un tout petit peu, vous voyagez et sans que ça vous pique.
C'est quoi la culture des épices en Inde ? Parce que c'est une culture qui est très épicée, des mélanges, beaucoup de mélanges d'épices. Mais comment vous la définiriez si vous devez...
La culture des épices. Ici, en France, on connaît beaucoup le curry. Beaucoup de gens me demandent, est-ce que vous avez du curry? Ah, j'ai adoré le curry de Madras, le curry de ceci.
Mais alors du coup, c'était ma question d'après, mais autant en parler maintenant.
Oui.
Des gens, des fois, pensent que le curry, c'est une chose, alors que en Inde, le curry, c'est...
Exactement. Le curry, c'est un mélange. Et en Inde, si vous allez n'importe où en Inde, vous trouverez autant de curry que de famille. Parce que chacun prépare ses mélanges d'épices, chacun utilise les épices à sa manière, chez eux. On ne peut pas dissocier la cuisine indienne des épices. Donc les épices sont partout. Je suis née dedans. Je crois que tout le monde en Inde, même si on mange une salade, dans les marinades, on peut mettre les épices.
Et du coup, vous êtes partie d'Inde quand vous avez quel âge ?
J'avais 26 ans, 27.
Et vous êtes partie parce qu'il y avait... Enfin, vous pouvez raconter juste rapidement l'histoire.
Mon histoire, elle est assez banale, mais mon parcours, pas du tout.
Oui, c'est ça.
Et mes parents, ils avaient arrangé mon mariage quand j'avais 20 ans. Et j'étais mariée pendant 5 années. Et au bout de 5 années, je me suis dit... La vie, c'est pas celui-là. Mes parents, ils ont choisi quelqu'un ils ont cru bien faire. La vie m'a montré autrement. Donc, le seul moyen de reprendre ma vie, reprendre mon indépendance, ma liberté, la dignité, c'était de reprendre mes études. J'avais fait un bac plus 3 en économie, Sciences Po et statistiques. Et ça faisait 5 ans que j'étais maman, je travaillais pas, oui. J'étais au foyer. Et j'ai vraiment planifié mon échappatoire via l'étude. Oui. Et c'est comme ça que je suis arrivée ici à Marseille.
Parce que vous avez, c'est-à-dire l'évasion, entre guillemets, s'est faite en disant je veux aller faire des études, donc ils vous ont laissé partir, et puis finalement c'était pour ne pas revenir, ou c'était...
J'ai pas pu revenir et le seul choix que j'avais, c'était de partir.
Okay.
Je suis la première qui a divorcé dans ma famille. Mmh. Donc, le divorce est très tabou en Inde. Une femme qui se divorce, elle n'a pas d'autre choix que de faire sa vie comme la famille dicte elle doit vivre par la suite. Et c'était pas ce que je souhaitais faire avec ma vie. Je voulais élever mon fils, moi-même. Je voulais devenir indépendante financièrement. Et pour arriver à ça, il fallait que je me remette à l'école. Et c'est ce que j'ai fait.
Et donc, vous êtes venue à Marseille?
Je suis venue à Marseille. J'ai repris mes études. Maintenant, ça s'appelle Kedge Business School. À l'époque, ça s'appelait Euromed. J'ai fait un an. Les mercredis, mon fils venait avec moi en cours parce que je pouvais pas payer Nounou. Il est devenu le mascotte du promo.
Alors, comment vous avez l'idée de Mama Spice? C'est en revenant à Marseille la deuxième fois.
C'est quand je suis arrivée à Marseille, on était hier chez moi, mon fils qui avait à l'époque 3 ans et demi, j'invitais des gens pour venir manger et j'utilisais mes mélanges indiennes. J'essayais un peu de le mettre dans les plats français. Ça l'indianisait trop et des gens ils disaient pas mal, mais c'est trop fort. Et du coup, je me suis dit, tiens, il y a pas mal des herbes aromatiques ici. Ils sont incroyables. Je vais essayer. Et je pense que sans le rendre compte, je mélange, je fais ces mélanges depuis 15 ans.
Okay.
Et le jour où je me suis posé la question, qu'est-ce que je voudrais faire? Et les épices. Et je me dis, j'aimerais bien faire découvrir les différentes épices et des différents mélanges qu'on pourrait faire avec les épices à tout le monde. Pas que des Français. C'est pour ça que je dis, je parle de la bolognaise. Mon premier patron chez Airbus Helicopter est un Sicilien et on avait pris l'habitude de quand je rentrais, je cuisine et en même temps, on faisait des debriefs par téléphone. Et donc, un soir, il me demande, alors, qu'est-ce que tu cuisines ce soir, Devaki? Et je lui dis, je fais la bolo. Il fait, ah oui? Et je lui dis, oui. Alors, comment tu fais ton bolo? Et je lui dis, l'oignon, ail, gingembre. Il fait, ah non! Je dis, si Ignace, le bolo c'est super bien avec le gingembre et je mets mes épices aussi. Il fait, donc c'est une bolo à la Devaki. Je dis, voilà.
Et alors du coup c'est quoi la règle pour, enfin peut-être pas la règle, mais est-ce qu'il y a une, pour respecter un équilibre en fait, parce que j'imagine que comme quand on fait des mélanges en cuisine, on peut à la fois faire n'importe quoi comme des choses heureuses, est-ce qu'il y a quelques règles à respecter, peut-être pas trop d'épices, ou tu vois qu'il y a quand même des mélanges à 18 épices, donc j'imagine que ça, c'est pas forcément la règle, pas trop d'épices.
Quand on fait des mélanges, tout est une question d'équilibre, de saveur et du parfum. Pour essayer de ne pas ressortir un en particulier, un goût ou saveur en particulier qui peut déséquilibrer le goût naturel de l'ingrédient. Quand je disais tout est une question d'usage, tout ce que vous pouvez préparer comme légumes, comme légumineuses, comme la viande ou les poissons, crustacés, j'ai tendance à mettre plus d'épices quand je prépare la viande parce que c'est plus fort et beaucoup moins quand je prépare des légumes pour justement garder les goûts des légumes, qu'on sent les carottes, qu'on sent les choux, on sent les betteraves, même les pommes de terre, par exemple. Et des mélanges, surtout pour Mama Spice, parfois, c'est des inspirations qui viennent de mon enfance, que je marie avec mes expériences ici, en France, et aussi par rapport à tous les voyages que j'aurais pu faire dans le monde. Et de vouloir marier les épices dans différents types de cuisine, pour moi, ça ouvre tout un monde devant nous.
et vous travaillez aussi avec des restaurateurs?
Oui.
D'ailleurs, des très grands restaurateurs à Marseille. Comment vous avez réussi à les rencontrer? Comment ils sont? C'est eux qui vous ont approché? C'est vous qui les avez démarchés?
C'est moi. Je suis. Alors, la première fois, je suis allée voir Ludovic Turac et sans mes épices. Et il me dit: Mais tu sors d'où? Et il me dit, mais pourquoi on n'a pas entendu parler de toi avant? Parce que tes mélanges, elles sont absolument fantastiques. Et je lui dis, parce que je viens de démarrer. Après, Georges en a vu, quand je suis allée la voir, elle me dit, oui, j'aime beaucoup les épices, je travaille énormément avec des épices. Donc, je le fais sentir. Et elle fait, oui. Je voudrais que tu viennes présenter tes épices à ma seconde en cuisine. À l'époque, elle s'appelle Maki Manoukian. Donc, je suis allée voir Maki et Maki, elle est devenue fan aussi. C'était la même chose avec chef Romain Moulet de l'Arôme. Et il me dit, moi, tu sais, la cuisine méditerranéenne française, je suis basique, hein, les épices, je connais rien. Donc, est-ce que tu peux venir voir ma seconde? Elle, par contre, Stéphanie, elle aime beaucoup les épices, elle peut les utiliser. Elle sait. Donc, je suis allée les présenter et elle est tombée amoureuse aussi. et c'est beau de les voir émerveillée et enchantée en même temps, et cette reconnaissance, c'est absolument énorme de savoir que la créativité que j'ai mis dans les mélanges, les chefs les amènent à un autre niveau avec leur créativité culinaire.
Est-ce que justement il y en a qui t'ont surpris dans l'utilisation qu'ils ont fait de certains de tes mélanges?
Oui, Georgiana. La première fois, je suis allée manger au restaurant La Piscine. Julie, la serveuse, elle arrive, elle dit, Georgiana vous a préparé un tartare de thon et qu'elle aimerait bien que vous le goûtiez et devinez quel de vos mélanges elle a utilisé. Primo, j'avais jamais mangé du poisson cru avant. J'ai du mal avec tout ce qui est cru, sauf les légumes. Et donc, je dis, mince, comment est-ce que je peux dire non? Mais allez, Devaki, on y goûte. J'ai goûté et c'était absolument incroyable, le goût. Ce tartare de thon, il était tellement bon. Je me suis trompée. Je n'ai pas su trouver quel mélange elle avait utilisé au début. La deuxième fois, je les ai eus. C'était du picot dans son tartare de thon, absolument sublime.
Et du coup, est-ce que quand vous mangez de la cuisine française, c'est pas trop fade? Quand vous êtes arrivé un peu à Marseille, vous n'êtes pas dit genre... Parce que moi, par exemple, j'ai déjà mangé un pot-au-feu chinois qui est bourré d'épices, à la fois épicé, piquant, plein de coriandre. Enfin, c'est vraiment la même recette que le pot-au-feu français. Mais du coup, je me dis, un Chinois qui mange un pot-au-feu français, il doit trouver ça incroyablement fade. Est-ce que vous, quand vous avez mangé des plats français, des plats même européens, vous n'êtes pas dit, ouais, il manque un peu d'épices là-dedans, quoi?
Parfois, oui. Mais j'ai vraiment... La personne, il y a deux personnes qui m'ont vraiment initiée à la cuisine française. La première personne, c'était ma première, la propriétaire de la maison où on habitait ici à Marseille, à Château-Gombert, Madame Fabre, Huguette Fabre. J'ai découvert les pieds paquets, les soupes de poisson, tout ce qui est la cuisine provençale, c'est grâce à elle. Et elle n'utilisait pas beaucoup d'épices, des herbes aromatiques, oui. Et c'était sa façon de cuisiner. C'est une cuisine qui est travaillée. Il y a du goût. Et la deuxième personne, c'est Tata Marinette. C'est la tata de mon mari, Benoît. Elle, rien que, on peut discuter avec elle et en moins de temps, on a l'impression en 20 minutes, elle nous sort tout un buffet. Et qu'est-ce que c'est bon! Et donc, même quand elle met un petit peu de cumin, un petit peu de cannelle, avec des herbes aromatiques, c'est la façon dont elle travaille les ingrédients. Ça a un goût. Même si elle fait un omelette sans rien du tout, je le mangerai parce que tout ce qu'elle fait à ta marinette, c'est extraordinaire.
Et est-ce qu'il y a un truc, je sais qu'au Mexique, ils éduquent les enfants, enfin ils éduquent le palais des enfants au piquant, à l'épicé, en leur donnant des sucettes au piment, en leur mettant, des fois on m'a raconté, un peu de tabasco dans le biberon, parce que ils les préparent à ce que sera leur vie d'adulte plus tard en mangeant très, très piquant. Est-ce qu'en Inde aussi... Il y a ça, est-ce qu'on prépare, est-ce que du coup les enfants sont habitués à manger piquant, épicé?
Oui. Déjà, le lait maternel, ah oui. ça démarre avec ça. Ensuite, quand on arrive à 6 mois, on passe de liquide à semi-solide. Moi, quand j'ai passé de liquide du lait maternel à des lentilles mélangées avec des carottes purées, tout un purée, mais semi-solide, on le préparait avec des épices. Pas forcément piquant, parce que ma maman et ma grand-mère m'a toujours dit, les enfants, il faut les apprendre tout petits. Ça leur ouvre leur goût. Et c'est pour moi, c'est aujourd'hui de voir mon fils manger un steak bleu et manger du poisson curry que j'essaie de faire comme ma maman et ma grand-mère qui arrache avec le piment. Je suis fière qu'il arrive à goûter de tout.
Et pourquoi en fait, pourquoi c'est important d'arriver à manger piquant, épicé? Parce que moi, je sais que je j'entraîne mon palais à le faire parce que je me rends compte que c'est vrai que ça ouvre des portes un peu différentes, mais les gens, beaucoup de gens ici en Occident, en France, disent qu'on comprennent pas. Ils disent en Inde, ça pique trop, comme en Inde, en Chine, au Mexique, ils disent ça pique trop, on peut pas manger, pourquoi ils font ça? Qu'est-ce que vous dites à quelqu'un qui vous dirait ça?
Je pense que manger très piquant, si vous n'êtes pas habitué, il n'y a pas de souci. Chacun son palais, chacun son estomac, surtout, et chacun ses habitudes. Et en Inde, la première chose, le climat. Donc, quand c'est chaud, humide ou chaud, sec, le piment sert de protéger l'aliment pour éviter que ça tourne. Le poisson, le curry de poisson qui est emblématique de Kerala, nous, on le prépare dans des pots en terre cuite, et c'est beaucoup mieux quand on le mange le lendemain et on le laisse dehors. On n'a pas besoin de le mettre dans un frigo. Et
ça, c'est grâce au piment.
C'est grâce au piment. Maintenant, demander à un occidental de faire pareil, je pense pas que c'est nécessaire.
Vous trouvez où vos épices, que ce soit les épices de la région comme les épices indiennes?
Alors, les herbes de Provence, les herbes aromatiques, je les source localement de la Provence. Les épices indiennes, je les fais venir de l'Inde. J'ai fait le choix de ne pas aller directement auprès d'un agriculteur. Pourquoi ? Parce que pour deux choses. La première chose, si demain je ne suis plus capable de lui commander, je ne voudrais pas que lui, il aille mal à cause de ça. Deuxième chose, j'ai choisi d'aller vers des coopératifs qui, eux, regroupent un ensemble de plus de 400 000 agriculteurs partout en Inde, justement pour assurer que j'ai les bonnes qualités d'épices que je peux avoir quand je souhaite les avoir.
Et c'est important aussi pour vous que les épices soient achetées à leur juste valeur et que aussi...
Exactement. C'est absolument incroyable ce qu'ils ont fait, ces sociétés. Ils ont aidé ces agriculteurs indiens de sortir du dette, à revenir vers l'agriculture biologique. Dans les fins fonds de l'Inde, il y a beaucoup de paysans, des agriculteurs qui se sont suicidés. Donc, ils sont allés chercher les femmes pour leur donner un travail et de venir travailler au sein des coopératifs. C'est quelque chose qui est extrêmement important pour moi. C'est ma façon de redonner à mon petite échelle, à la fois à ces femmes. Et c'est beau quand une femme puisse nourrir ses enfants et devenir indépendante et être maître de son destin.
Parce que c'est aussi ce que vous avez
exactement
fait.
Donc c'est un peu ma manière de dire qu'est-ce que je peux faire à travers Mama Spice pour aider ces femmes. Les sociétés avec qui je travaille, je les ai choisies par rapport aux valeurs, par rapport à leurs éthiques. En juin l'année dernière, il y a un de mes fournisseurs qui est venu me voir et qui m'a dit une phrase et il m'a dit « Même si moi je ne suis pas payé, je m'en fous, il faut que mes agriculteurs soient payés et payés à leur juste valeur. »
Retrouvez les mélanges de Devaki sur son site Mama Spice. Et maintenant, pour faire la balance avec l'épicé, le fad. Si je vous dis fad, vous allez sûrement tous penser à un plat, à un aliment. Eh bien, je pense que vous vous trompez. Enfin, je veux dire, il y a de grandes chances que vous vous trompez. Peut-être pas vraiment, mais vous allez voir que même nous, on n'est pas vraiment tous sur la même longueur d'onde quand il s'agit de dire qu'est-ce qui est fad et qu'est-ce qui ne l'est pas, et qu'on se trompe vraiment souvent. Et comme les observations pertinentes sont faites par des gens qui ont un regard extérieur dans la plupart des cas, c'est Ryoko Sekiguchi qui le dit dans son livre Fad, où elle raconte pourquoi le fad n'est pas un non-goût et comment nous, Français, en avons une vision, comment dire, un peu brouillée.
En français, je pense qu'on peut dire que justement c'est l'absence d'émotion. L'absence justement du goût, mais pas le goût gustatif, mais le goût de la vie. Et c'est pour ça que je pense que quand on dit c'est fade, c'est que ça se discute pas. Je veux pas de cette vie-là qui est monotone. Alors que en japonais, gustativement parlant, ce mot fade n'existe pas, je dois dire réellement. C'est-à-dire qu'on considère qu'il n'y a pas d'ingrédients qui n'a pas de goût. Donc tous les ingrédients ont un goût et que si on ne sent pas le goût, c'est que c'est nous qui ne ressentons pas le goût. Et ce n'est pas faute aux ingrédients.
C'est pas la faute des ingrédients, mais la nôtre, on n'a pas encore le palais assez aiguisé pour saisir les subtilités.
Est-ce que du coup la vision française, on va dire peut-être même occidentale du fade est aussi apportée par le sel qui est quand même très présent dans la cuisine française en tout cas et qui est quand même très peu présent dans la cuisine japonaise et que du coup nous ce qu'on pourrait considérer comme dire assez fade, quelqu'un va dire c'est fade, bah, rajoute un peu de sel. Alors que c'est plus subtil que ça, en fait.
Alors, je pense que ce n'est pas tout à fait vrai, parce que moi, quand je suis arrivée en France, je pensais que la cuisine française est moins salée que la cuisine japonaise. Mais je pense que si vous avez eu cette impression-là, c'est à cause du fait que, vous savez, au cours de l'éducation gustative, on apprend à aimer des goûts différents. Quand on est enfant, on aime juste le sucré, mais après, les goûts plus complexes, disons. L'amertume, acidité, tout ça. Et je pense qu'au Japon, plus on grandit, plus on apprend à aimer les goûts subtils qui sont caché derrière. Et donc, si, par exemple, on peut reconnaître la différence de goût de deux tofu que les Français trouvent fades, justement, c'est le signe de maturité, en quelque sorte.
Vous dites que les Japonais aiment bien manger du riz à même la récolte, enfin, le riz tout frais récolté, ou que les soba encore fraîches, on va dire, se consomment sans sauce, avec juste de l'eau pour manger, pour avoir le goût du sarrasin. Et ça, c'est vrai que nous, on va avoir tendance, comme nous, les Occidentaux, on n'a pas forcément le palais aiguisé pour différencier les riz, en tout cas les goûts des riz plus ou moins vieux. En France, on va dire « Ah, c'est fade ». Est-ce qu'au Japon, vous allez dire « Oui, on aime ce fade » ou c'est considéré même comme pas fade, comme autre chose, c'est quand même du goût ? Est-ce que c'est...
Justement, ce n'est pas fade. Le riz qui vient d'être récolté, ça n'a pas du tout le même goût que le riz, enfin 6 mois passés. Et pareil pour le thé, le thé qui vient d'être récolté n'a pas du tout le même goût. Alors, mais je peux peut-être poser la question en fait autrement. Quand je suis arrivée en France, moi, je pensais que la même chose s'applique pour les blés. Et j'étais assez étonnée de voir qu'il n'y a pas de pain, par exemple, qu'il n'y a pas de fête. Il y a de fête de vendange, bien sûr, mais qu'il n'y a pas de pain avec la farine qui vient d'être récoltée. Et alors que je pense que ça doit avoir un goût complètement différent.
C'est vrai, sûrement, ouais. C'est vrai qu'on pense pas du tout. C'est vrai que c'est... Alors qu'il y a des fêtes au Japon de la première récolte du riz.
Oui, et comme par exemple l'huile d'olive en Italie. L'huile d'olive qui vient d'être récoltée n'a pas du tout le même goût. Et je pense que qu'on doit lancer ça, le pain de blé, de...
On va te faire ça. Oui. Comme le Beaujolais nouveau, mais le pain nouveau.
Oui, bien sûr, et ça doit être très très bon.
Et qu'est-ce qui a déclenché l'envie d'écrire ce livre ?
Alors, moi, il y a beaucoup de choses qui viennent de mon métier de traducteur. Et c'est vrai que le mot fade, donc en français, m'a intriguée parce que chaque fois que j'entendais les gens dire « Ah, c'est fade !» devant eux, il y avait des ingrédients qui n'avaient pas du tout le même goût. Parfois, c'était le mozzarella, courgette, du riz. Eux-mêmes, donc, j'ai entendu une fois à la radio quelqu'un qui disait « Alors, la cuisine chinoise, c'est fade. Oh ! Mais c'est tout sauf fade, enfin, à mon avis. Donc, je pense
aussi, oui. C'est-à-dire, quelle cuisine chinoise, de quel endroit, et puis en plus, il y a tellement de choses que c'est possible de la résumer.
Et c'est pour ça que j'ai pensé qu'il y a quelque chose qui est derrière, qui est autre chose que le goût objectif, qui fait dire aux Français que c'est fade.
Et donc, du coup, c'est quoi ? Moi, j'ai lu votre livre, mais est-ce que vous pouvez l'expliquer ? C'est vrai que de ce que j'en comprends, c'est que des fois, c'est plus peut-être du souvenir, peut-être l'absence de souvenir, ou parfois même quelque chose de très subjectif, de la non-compréhension de quelque chose. Donc, on préfère l'évacuer en disant « Oh, c'est fade », alors plutôt que de chercher à comprendre.
Alors, je pense que chaque culture culinaire, à part la différence de méthode, ou bien de savoir-faire et les ingrédients, a une sorte de pensée, un message à transmettre. Et je pense que la cuisine française, que ce soit gastronomique ou non, populaire, a un message. C'est-à-dire qu'elle est en quête constante, pour moi, de la vitalité, de l'intensité de la vie. Et fade représente, je pense, pour les Français, tout ce qui est le contraire, et donc tout ce qui est à rejeter. Donc, par exemple, la cuisine des cantines, c'est fade. La cuisine industrielle, c'est fade parce que c'est impersonnel. La cuisine qui n'a pas de couleur peut être fade. Donc, la cuisine des ingrédients blancs, comme j'ai dit, donc le riz, le tofu, peut-être la couleur peut aussi contribuer pour donner cette impression de fade.
Mais c'est
même
plus blanc que ça, parce que c'est même les endives, alors que l'endive, oui, c'est pas fade, c'est plutôt amer,
oui,
mais c'est pas fade.
Oui.
La purée de pommes de terre, vous dites, certaines personnes disent ça, alors que une purée de pommes de terre faite normalement, j'entends, donc pas industrielle, mais faite normalement, et c'est très bon et c'est pas fade. Mais c'est vrai que c'est peut-être, donc déjà, ouais, ça, la couleur, l'absence de goût, en tout cas là on pense l'absence de goût, et il y a aussi le souvenir en fait que vous disiez, c'est-à-dire les gens qui du coup ça ressemble pas au plat de la grand-mère, donc c'est fade.
Voilà et donc moi je trouve ce message très fort, très bien, et pour ça j'approuve les gens qui disent c'est fade, mais en même temps c'est un côté négatif aussi, parce que comme je vous ai dit, quand on dit c'est fade, ça se discute pas, c'est l'impression qui prime. Et du coup, on peut parler de ça pour la cuisine, entre guillemets, des autres. Donc, quand on ne connaît pas, au lieu de dire, au lieu de, d'admettre notre ignorance, on dit, bon, cette cuisine japonaise, par exemple, que je ne connais pas, c'est fade. Je ne peux pas reconnaître la subtilité des goûts. Bon, ce n'est pas de ma faute parce que les ingrédients n'ont pas de goût, c'est fade. Voilà. Donc là aussi, il y a une sorte de refus de l'autre. C'est très ambivalent l'utilisation de mots fade.
Oui, c'est vrai qu'il y a aussi ce côté presque occidentaliste de considérer que la cuisine, la nôtre, en tout cas notre vision de la cuisine, est celle qui est prévaut et la norme en fait. Et du coup, comme la cuisine japonaise est peut-être en soi, sur certains aspects, pardon, un peu moins épicé, avec des goûts différents, on va considérer qu'en fait, ils ont raté le truc et que c'est fade, alors que c'est une mauvaise vision, parce qu'il suffit, comme vous disiez, de s'habituer, de s'entraîner, d'essayer de trouver des goûts pour arriver à différencier un bon d'un mauvais tofu, différencier des bonnes ou des mauvaises soba. Et c'est vrai que c'est un problème de grammaire, parce que vous dites qu'on n'a pas la grammaire qu'on doit apprendre, et qu'en fait, il faudrait apprendre à goûter plus, ou à être, en tout cas essayer de considérer que son premier avis n'est jamais vraiment le bon. C'est marrant parce que nous en France, j'ai l'impression que par exemple, si on va, quelqu'un va manger des huîtres jeunes, il va pas aimer, on va dire c'est pas grave, tu reviendras plus tard, t'aimeras ça. Et en fait, on accepte que le goût de l'huître puisse s'entraîner, alors que par contre, le goût du tofu, non, c'est définitivement fade.
Voilà.
Vous y arriverez jamais.
Oui, ça c'est vrai. Et c'est vrai que, mais en même temps, je comprends que les Français trouvent la cuisine japonaise, par exemple, fade, parce que justement, le message que la cuisine japonaise dégage, ce n'est pas la festivité. Je pense que si on veut faire, je ne sais pas, un festin de 100 personnes, la cuisine japonaise ne pourra jamais exceller la cuisine française. On est bien d'accord. Et je pense que la cuisine japonaise, c'est une sorte de compagnon, un ami assez discret, enfin qui n'est peut-être pas très très drôle, voilà, pendant les fêtes des amis, mais qui est toujours là à côté, et surtout à qui on peut faire confiance quand on se sent un peu faible, quand on est un peu malade, quand on a le chagrin d'amour, il est là, il tapote votre épaule et peut dire ça ira mieux. C'est un goût comme ça, je pense, et c'est vrai que la cuisine japonaise, par exemple, s'accompagne mieux quand on est tout seul. On peut, vous voyez, les petits comptoirs et en parlant tranquillement avec le patron qui vous sert des petits mets. Et je pense que c'est ce mode-là que la cuisine japonaise à développer. Et donc, j'ai dit beaucoup, en fait, c'est tout à l'heure, j'ai utilisé beaucoup de mots subtilité, mais ce n'est pas pour dire que la cuisine japonaise est plus subtile que la cuisine française, mais ce n'est pas ça, c'est que c'est, en fait, ce sont deux personnes différentes.
C'est vrai que c'est une bonne image, parce que comme le copain de soirée qui va être très drôle du premier coup, et qu'on va apprécier tout de suite, et qui peut-être sera pas l'ami de tout le temps, alors que celui qu'on appréciera pas tout de suite, mais qui se laissera apprécier, c'est une bonne comparaison entre la cuisine japonaise et la cuisine française. Et dans le livre aussi, vous avez en gros une théorie avec l'eau. Vous faites le parallèle en disant que pour essayer d'expliquer le fade, nous expliquer, vous dites que l'eau, c'est vrai que tout le monde trouve que ça très bon. L'eau, c'est un peu le, peut-être pas le goût parfait, mais c'est quelque chose quand même qui est universel et que les Japonais en fait arrivent à essayer de retrouver cette universalité de l'eau dans leur cuisine.
Oui, alors j'ai posé la question à beaucoup de Français si on utilise le mot fade pour l'eau et personne n'utilise le mot fade pour l'eau. C'est vrai que l'eau n'est jamais fade, même pour les Français. Et je pense aussi parce que c'est vrai que c'est le pour tout. Les cultures culinaires, c'est l'ingrédient majeur. C'est d'ailleurs ce qui constitue notre corps. Et je pense que c'est aussi parce que la cuisine japonaise a mis comme le premier pilier, le premier ingrédient, l'eau. L'eau est toujours là. Et le saké aussi est fait avec du riz et de l'eau. Le tofu est fait avec du soja et de l'eau. Le poisson et de l'eau. Et je pense que c'est aussi ça qui fait que pour certains étrangers, ça paraît fade. Mais je pense que c'est une sorte de presque d'adoration de l'eau dans la cuisine japonaise qui fait que tout est là autour de l'eau.
Ça pour retrouver l'équilibre gustatif de l'eau, c'est assez beau je trouve. Quelle est la place du fade dans la cuisine japonaise? Comment il se place dans l'assiette? Comment il se place dans les repas? Est-ce que c'est qu'il est toujours là un peu?
J'ai du mal à dire la place de fade parce que encore une fois rien n'est fade. Mais c'est vrai que par exemple on apprend à ne pas mettre la sauce soja sur n'importe quel plat avant de goûter. Donc la maman peut dire aux enfants toujours goûte d'abord ça avant de mettre le... Bon, ça je pense qu'on peut dire ça aussi en France avant de mettre du sel.
Exactement, ouais.
Mais c'est vrai que chaque fois pour le quand l'ingrédient arrive pour les ingrédients de primeur, donc la première fois dans l'année, non seulement pour les tofu, bien pour du riz, on goûte pour la première fois seul, sans rien. Et je pense que ça aussi, ça existe aussi en France, ça existe aussi en Europe, et que je pense que au Japon, cette coutume a beaucoup persisté malgré l'industrialisation massive de l'alimentation. Bien sûr, on est bien d'accord. Les Japonais aussi maintenant sont vraiment les victimes de l'alimentation industrielle. Mais je pense qu'à un autre côté, il y a ce coutume qui persiste.
Et alors, vous dites aussi que les Japonais, en fait, sont aussi plus enclins à remarquer, à s'intéresser aux textures des ingrédients. Et c'est pour ça que parfois le goût peut sembler passer au second plan, parce qu'il y a des, comme les pâtes de haricots qui sont vraiment... vous avez un terme pour, je sais, fluide, non, comment c'est pas mou, c'est...
C'est moti-moti. Justement, mou, c'est péjoratif. Hein.
Oui.
On voit que les Français n'aimaient pas cette texture, parce qu'il n'y a pas de qualificatif pour dire mou, mais positif, n'est-ce pas?
Mais c'est le cas de la mâche, par exemple, tout le temps dans les émissions culinaires, dans les critiques qui sont là, il n'y a pas assez de mâche, ouais, c'est bien, il y a de la mâche, comme si le croquant était l'absolu de la cuisine et qu'en fait le mou était vraiment le fade en fait, de la texture, alors qu'au Japon, pareil, c'est quelque chose qui est important aussi.
Oui, c'est vrai, parce qu'il y a nous, je pense peut-être que la cuisine japonaise a... si j'ose dire fade, parce que on a aussi privilégié beaucoup la variété de textures. Il y a beaucoup d'onomatopées pour exprimer les différentes textures. Et je pense que pour qu'on puisse apprécier pleinement une texture, un goût peut être perturbateur.
Oui, c'est
vrai. C'est vrai que pour les plats qui sont justement un peu onctueux, qui sont, on appelle ça moti-moti, donc mou, enfin c'est pas mou, mais voilà. Il y a pas beaucoup de goût. Quand c'est utilisé, cette texture est employée dans le dessert, on ne met pas beaucoup de sucre parce que trop de sucre peut tuer cette sensation de texture. Donc, on se concentre sur la texture, par exemple, parfois, et le goût se retire en arrière-plan.
Vous pensez à quoi, par exemple, à part il y a la pâte de haricot, mais est-ce qu'il y a d'autres ingrédients qui sont comme ça?
Je pense même... par exemple, pour konnyaku. Alors, le konnyaku, c'est le pâte de igname que justement les Français trouvent fade. Et c'est assez lisse. C'est une sorte de gelée un peu dure et qui glisse comme un petit poisson dans le palais. Et c'est vrai qu'on adore cette texture. Et il y a une sensation appelée nodogoshi. C'est la sensation lorsqu'un ingrédient passe dans la gorge. Et il n'y a pas ça en français.
Ouais,
voilà. Et c'est en fait, c'est la sensation de premier gorgé de la bière.
Ok, c'est aussi ok.
Voilà, c'est agréable, n'est-ce pas? Et on sait qu'il y a plusieurs sensations de nodogoshi.
Ah oui, qu'il y a même des variations autour de cette sensation.
Oui, et pour ça, je pense que on n'a pas besoin de goût parce que ce n'est pas sur ça ne travaille pas sur le palais, donc de toute façon, on ne peut pas sentir le goût.
C'est intéressant de voir comment parfois il suffit de prendre du recul sur un goût pour se rendre compte que même sans le faire exprès, nos visions sont un peu biaisées. Et ça valait le coup pour ça de parler avec des gens qui regardent la cuisine française avec un œil un peu différent. Et donc pour ça, merci à Ryoko et à Devaki d'être venus parler avec nous. Fad, le livre de Ryoko, est disponible un peu partout et les épices de Devaki le sont sur son site mama-spice.com. Toutes les adresses évoquées durant l'épisode sont à retrouver sur le site de Nouvelles Écoutes, nouvellesecoutes.fr/bouffon. Et aussi sur notre carte Mapster. On met même des adresses qui sont pas dans les épisodes et même des adresses qui sont partout en France et dans le monde. On est aussi sur Twitter, @bouffonne, et pareil sur Instagram. Bouffon est une émission de Nouvelles Écoutes animée par moi, Guillaume Malissen, réalisée par Aurore Meyer-Mailleux, montée et mixée par Thibaut Delage au studio L'Arrière Boutique, production et coordination Laura Cuissard. Parlez-en autour de vous, mettez 5 étoiles sur Apple Podcast et pourquoi pas un petit commentaire, ça mange pas de pain. À la semaine prochaine!